je voudrais donc montrer que la télévision est le lieu de censure multiple et pour la plupart invisible, y compris pour ceux qui les exercent. Et ceci est important parce que l'analyse sociologique se heurte souvent à un malentendu lorsque elle met au jour des mécanismes cachés. Ceux qui font l'objet de ces analyses, dans le cas particulier des journalistes, ont tendance à penser que le travail de dénonciation, avec une apostrophe, est un travail de dénonciation, et de dénonciation personnelle. Et ils se sentent en quelque sorte visés par les analyses. Alors que plus on avance dans l'analyse d'un mécanisme, d'un milieu, d'un fonctionnement social, plus en quelque sorte on est amené à dédouaner les agents de leurs responsabilités. Ce qui ne veut pas dire qu'on justifie tout ce qui se passe dans un univers social, mais plus on comprend comment il fonctionne, plus on comprend aussi que les gens qui le font fonctionner sont manipulateurs autant que manipulés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne manipulent pas, et souvent ils manipulent d'autant mieux qu'ils sont eux-mêmes manipulés et inconscients de l'être. Donc, j'insiste sur ce point, tout en sachant que malgré tout ce que je dis sera perçu comme ce qu'on appelle une critique. Bon, c'est aussi une manière pour les groupes sociaux analysés de se défendre contre l'analyse. Donc, la télévision est le lieu de censure. Ces censures, on s'attend à ce que je dise qu'elles sont politiques. Et on pense que, effectivement, la télévision est sous le contrôle des gouvernements, des ministres de l'information. On proteste contre le fait que la France est un ministre de l'information, ce qui, évidemment, n'est pas très défendable, mais l'important n'est pas tellement là. On peut penser aussi aux censures économiques. En fait, il est vrai qu'en dernier ressort, on pourra dire que ce qui pèse sur la télévision, c'est toute la logique économique. Alors, j'ai bien en dernier ressort, en dernière analyse. Cela dit, dire simplement que ce qui se passe à la télévision est déterminé par les gens qui possèdent la télévision, par les annonceurs qui payent la publicité, par l'État qui donne des subventions, je pense que c'est très insuffisant et que si on ne savait sur une chaîne de télévision que le nom du propriétaire, la part des annonceurs dans le budget, des différents annonceurs, etc., et le montant des subventions, on ne comprendrait pas grand-chose. Voilà, ce sont des choses tellement grosses que, et grossières que la critique la plus élémentaire les perçoit. Il me semble que ce que je veux montrer est beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus dangereux. Bon, je parle souvent de violence symbolique, enfin, bon, c'est une notion qui peut paraître abstraite et difficile, mais je crois qu'elle est utile en l'occurrence. La violence symbolique est une violence, ce sont des coups en quelque sorte, bon, qui s'exerce avec en quelque sorte la complicité tacite de ceux qui la subissent et de ceux qui l'exercent, dans la mesure où les uns et les autres sont inconscients de subir cette violence. Et un des rôles de la sociologie, enfin c'est son métier, elle fait comme toutes les sciences, elle dévoile des choses cachées, inconscientes, et ce faisant, elle peut contribuer un petit peu à minimiser la violence symbolique qui s'exerce dans les rapports sociaux, et en particulier dans le rapport de communication médiatique. Alors, ce que je veux montrer donc, c'est une série, je veux mettre le doigt sur une série de mécanismes qui font que la télévision cache. La télévision cache tout en montrant. Et en un sens, plus elle montre, plus elle cache. Plus elle dévoile, plus elle voile. Alors, bon, j'ai l'air encore de jouer au paradoxe, mais prenons le plus facile. Bon, je vais aller constamment du plus facile, du presque conscient, jusqu'au, je crois, le plus difficile et le plus inconscient. L'effet divers. Bon, on pourrait dire, pour faire un jeu de mots, l'effet divers, ce sont des faits qui font diversion. L'effet divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. Je le dirai au moins 20 fois au cours de mon exposé. La rareté, la denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses, elles cachent des choses importantes. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est qu'on sait par ailleurs qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis en tête, je n'ose pas les dire de mémoire, on sait qu'aujourd'hui, une proportion très importante, qui est de l'ordre de plus de 50% des gens, ne lisent aucun quotidien. Autrement dit, sont voués, corps et âme, à la télévision. Or, si elle fait ce que je dis, c'est-à-dire si par exemple, en mettant en tête des faits divers, or vous pouvez vérifier, prenez France Info, dans 5 minutes, on peut faire la vérification, on va commencer par un fait divers, et de plus en plus, et puis quand ce n'est pas la page sportive, etc. Bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. La télévision a cette propriété qu'elle montre, bon. Mais on peut paradoxalement cacher en montrant. Alors, évidemment, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer, bon, si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer, mais on peut aussi cacher en montrant ce qu'il faut montrer, mais en le montrant de telle manière qu'on ne le montre pas, en montrant de telle manière qu'on le décompose, ou on le déconstruit, on le rend insignifiant, ou au contraire qu'on le construit de telle manière qu'il prend un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, sur ce point, j'aurai l'embarras du choix, mais je prends deux exemples qui sont empruntés à un très beau travail de Patrick Champagne dans La misère du monde. Patrick Champagne a fait un chapitre consacré à la représentation que les médias donnent des phénomènes de misère, de qu'on appelle de banlieue, etc., etc. Et il montre comment les journalistes, portés à la fois par les propensions inhérentes à leur métier, à leur vision du monde, à leur formation, à leur à leur disposition, etc., mais aussi par la logique de la profession dans laquelle ils se trouvent, etc., il montre donc comment les journalistes, sous ces différentes contraintes, sélectionnent dans la réalité sociale et dans cette réalité particulière qu'est la vie des banlieues, un aspect tout à fait particulier et qui ne correspond en général pas à grand-chose. Alors, autrement dit, pour dire les choses très simplement, les philosophes appellent ça des catégories. Ce sont des catégories, ce sont des structures invisibles, bon, qui sont le principe de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Bon, la métaphore la plus commode qu'emploient les professeurs qui veulent enseigner Kant, ils disent au fond ce sont des lunettes. Bon, et je pense que c'est pas faux, ce sont des lunettes, mais d'un type très particulier, des lunettes qui structurent d'une certaine façon, qui disent ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est masculin, ça c'est féminin, etc. Bon, alors ces catégories, nous en avons plein la tête, elles sont le produit de notre éducation, de l'histoire, etc. etc. Et les journalistes eux-mêmes ont des catégories à partir desquelles ils voient certaines choses, ils n'en voient pas d'autres, hein, et ils voient d'une certaine manière les choses qu'ils voient. Voilà les deux procédés. Ils opèrent donc une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Alors, principe de sélection. Le principe de sélection, c'est le sensationnel, c'est donc ce qui est sensible, immédiat, mais alors c'est encore trop vague. Le sensationnel, c'est aussi le spectaculaire. On est dans une logique du spectacle, on filme, etc., donc il est normal qu'on filme des choses spectaculaires. La télévision appelle en quelque sorte du spectaculaire, du sensationnel, elle appelle à la dramatisation, elle appelle à la vision dramatique. Et un des problèmes étant d'avoir l'ouverture du journal. Il va y avoir une compétition entre les journalistes pour avoir l'ouverture, une compétition entre les journaux pour avoir la meilleure ouverture, etc., etc., et tout ça va porter à la dramatisation. Donc, dans les banlieues, ce qui intéressera, ce sont les émeutes. C'est déjà un grand mot, hein. Ça peut être un chahut qui devient émeute. Alors là aussi, on fait le même travail sur les mots. Avec des mots ordinaires, on n'a rien à dire, on n'épate pas le bourgeois, ni le peuple. Bon, donc il faut des mots extraordinaires. Donc les journalistes, grosso modo, s'intéressent à l'exceptionnel. L'exceptionnel pour eux, ce qui peut être ultra banal pour d'autres pourrait être extraordinaire pour eux, grosso modo. Donc il s'intéresse à l'extraordinaire, là je crois que c'est pour résumer ce que j'ai à dire, l'extraordinaire en mettant tiré entre les deux mots, l'extraordinaire, bon, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'ordinaire, ce qui rompt avec la routine ordinaire. Et l'extraordinaire c'est quoi? C'est ce qui n'est pas quotidien, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Alors c'est bizarre, les quotidiens doivent parler de ce qui n'est pas quotidien, alors c'est un problème. Ils doivent parler quotidiennement de l'extra quotidien. C'est du boulot, il faut voir, le métier de journaliste n'est pas facile, hein, je ne le critique pas. Donc, l'extraordinaire, ça sera quoi? Ce qui sort du cadre quotidien. Bon, alors, ça va être justement le fait divers, etc. Et aussi, alors c'est là que ça devient plus grave, ça va être ce qui est extraordinaire par rapport aux autres journaux. Bon, c'est la double définition, c'est ce qui est différent de l'ordinaire et ce qui est différent de ce que les autres journaux disent de l'ordinaire, ou disent ordinairement. Bon. L'image a cette force exceptionnelle qu'elle peut produire ce que les critiques littéraires appellent un effet de réel. Elle peut faire croire, elle peut faire voir et faire croire à ce qu'elle fait voir. Et cette sorte de puissance d'évocation a des effets de mobilisation. Elle peut faire exister pas seulement des idées, pas seulement des images, des représentations, elle peut faire exister des groupes. Alors, il y a un autre exemple que prend Patrick Champagne dans son texte, c'est la grève des lycéens des années, je ne sais plus, il y en a eu tellement, grâce à Dieu, bon, c'était une des grèves des lycéens, et bon, c'était un petit événement dont le traitement illustre parfaitement tout ce que je viens de dire. Les journalistes avaient en tête 68, alors bon, est-ce que ça serait pas de nouveau 68? Si 68, il faut vraiment pas le rater. Bon, alors on commence à filmer, puis on a affaire à des ados pas très politisés, qui savent pas trop quoi dire. Alors on crée des porte-paroles, les porte-paroles se prennent au sérieux, etc. Bon, et de fil en aiguille, bon, la télévision qui prétend enregistrer, enfin qui prétend être un tout record, en fait, comme on dit, d'être un instrument d'enregistrement, bon, devient un instrument de création, de réalité. Bon, elle fait voir, elle fait croire, et alors ça conduit à des choses extrêmement importantes. On va de plus en plus vers des univers où le monde social est décrit, prescrit par la télévision. La télévision devient en quelque sorte l'arbitre de l'accès à l'existence, voilà, sociale et politique. C'est des gros problèmes de la politique, c'est de savoir comment imposer des principes de vision du monde, toujours les fameuses catégories, imposer des lunettes telles que les gens voient le monde selon certaines divisions. Ils disent ce qui est important, c'est l'opposition entre les jeunes et les vieux, ou les étrangers et les français, etc. Bon, cette opposition, ces principes d'opposition, on les impose et on fait des groupes. C'est ça l'enjeu. Et ces groupes se mobilisent et font convaincre de leur existence, font pression, font reculer le gouvernement, comme on dit, etc. Bon. Et dans ces luttes aujourd'hui, un des choix devient, faut-il manifester pour la télévision ou manifester, bon, et ceux qui en sont encore à croire qu'il faut manifester, que ça suffit, risquent de rater leur manifestation. Il faut de plus en plus produire des manifestations pour la télévision, c'est-à-dire des manifestations de nature à intéresser les gens de télévision, étant donné leur catégorie de perception. Voilà. Alors, j'ai dit jusqu'à présent, j'ai parlé comme si le sujet de toutes ces actions était le journaliste. Alors évidemment, le journaliste est une entité abstraite qui n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des journalistes extrêmement différents, selon le sexe, selon l'âge, selon le journal, selon le médium. Il n'y a presque rien entre la présentatrice en commun entre la présentatrice de TF1 et l'éditorialiste du Monde. Etc. Bon, donc il y a toutes sortes de divisions, il y a une dispersion très grande de la population. Le monde des journalistes est un monde divisé, où il y a des conflits, des concurrents, des hostilités, etc. Cela dit, mon analyse reste vraie, je crois, parce que ce que j'ai à l'esprit, c'est que cette image que produit globalement la télévision est beaucoup plus homogène qu'on ne croit en ce qui concerne les biens symboliques, enfin les messages, la concurrence homogénéise. Bon, il suffit de comparer les couvertures des hebdomadaires français à 15 jours d'intervalle, on voit à peu près les mêmes titres, et même, bon, il suffit de comparer les les journaux télévisés, si je comparais les journaux radiophoniques des chaînes à grande diffusion, au pire, l'ordre des informations change, disons, au pire ou au mieux. En fait, il y a une sorte d'unification par la concurrence, et les produits télévisés sont des produits de collectif, mais pas seulement du collectif constitué par l'ensemble du journal ou l'ensemble d'une rédaction, mais du collectif constitué par l'ensemble des journalistes. Bon, c'est-à-dire que, bizarrement, on pourrait dire, on pose toujours la question, mais qui est le sujet d'un discours, hein? Je suis en train de parler, et qui parle? Est-ce que c'est moi? On n'est jamais sûr d'être le sujet de ce qu'on dit. Hein? Pour une grande part, on dit des choses qu'on a apprises, etc. Bon, Descartes disait déjà, nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Enfin, nous disons beaucoup moins de choses originales que nous ne le croyons. Bon. Mais c'est particulièrement vrai dans des univers où les contraintes collectives sont très fortes, et en particulier les contraintes de la concurrence, dans la mesure où chacun des acteurs, des agents, des producteurs, est amené à faire des choses qu'il ne ferait pas si les autres n'existaient pas, des choses qu'il fait pour arriver avant les autres, pour... voilà. Alors, un phénomène très précis qui illustre très bien ça, c'est personne ne lit autant les journaux que les journalistes. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on oublie. Moi, j'ai beaucoup d'amis journalistes, et ça m'amuse toujours. Ils me disent, ah, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as lu, etc. Bon, c'est très étonnant. Ils pensent que tout le monde lit tous les journaux. Ils oublient, par exemple, que d'abord, il y a beaucoup de gens qui lisent pas les journaux, et ensuite que ceux qui lisent les journaux en lisent un. Il est très rare qu'on lise le même jour Le Monde et Libé, à moins d'être un professionnel. Bon. Alors, pour eux, l'instrument majeur, c'est la revue de presse. Bon, la revue de presse, qui est une fiction journalistique, ça n'amuse personne. D'ailleurs, c'est un truc rituel qui a dû être inventé au 19e siècle et qu'on vous assène tous les matins dans les radios, dans les radios surtout. Bon, la revue de presse, c'est un instrument professionnel, c'est-à-dire pour savoir ce qu'on va dire, il faut savoir ce que les autres ont dit. Ce qui fait que, par exemple, pour faire mon programme du journal télévisé de midi, il faut que j'ai lu les journaux du soir. Et pour faire mes titres du journal du soir, il faut que j'ai vu le 20h de la veille. Bon, alors, ça fait partie des prérequisites, des exigences tacites du métier. Bon. Donc, alors, c'est à la fois pour être dans le coup, pour voir ce qu'ils ont fait, etc., pour se démarquer, mais se démarquer, c'est souvent des différences infinitésimales auxquelles les journalistes accordent une importance fantastique et qui passent complètement inaperçues des téléspectateurs. Une de leurs croyances, c'est que, par exemple, lorsqu'ils battent, un exemple, bon, on dira, je cite, hein, les sociologues sont la cité, ils disent, on a niqué TF1. Bon, alors ça veut dire quoi? On a niqué TF1, c'est comme ça qu'on parle. C'est une façon de dire, nous sommes en concurrence, nous produisons des petites différences, hein, on retraduit ça. Bon, exister dans beaucoup d'univers sociaux, c'est pareil chez les intellectuels, hein, c'est différé. Hein, c'est comme, je dis aux intellectuels, pour les énerver, vous êtes comme des phonèmes, vous existez par la différence. Bon, alors, on a niqué TF1, ça veut dire on est une différentielle de sens. Bon, on est arrivé trop vite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah ben, eux, ils n'ont pas eu le son, nous, on a le son. Ou bien, ils ont des trucs absolument imperceptible, bon, du spectateur moyen qui ne pourrait percevoir s'il voyait les deux. Alors il n'y a pas des gens assez vicieux pour taper deux journaux télévisés. Bon. Donc de toute façon ça passe complètement inaperçu et ça reste et en même temps c'est très important du point de vue des producteurs qui agissent en fonction, en vue de produire des différences dont personne ne s'aperçoit, mais parce qu'ils ont l'idée que ces différences étant perçues, elles contribuent à l'audimat. Et l'audimat, alors ça, j'y reviendrai, l'audimat c'est le dieu caché de cet univers, c'est ce qui règne sur les consciences, et perdre un point d'audimat, dans certains cas, c'est la mort, hein, c'est la mort sans phrase. Bon, si on se demande, enfin, c'est une question qui peut paraître naïve, comment sont informés les informateurs? Bon, ces gens qui sont chargés de nous informer, comment s'informent-ils? En gros, les informateurs sont informés par d'autres informateurs. Il y a une sorte de cercle de l'information. Bon, bien sûr, il y a l'AFP, il y a les agences, etc., etc., mais une part très importante, peut-être la part essentielle, celle qui décide, c'est conduit à décider, cette sorte de méta-information, d'information sur l'information, qui permet de décider ce qui est important, ce qui mérite d'être transmis, etc., cette information sur l'information vient en grande partie des autres informateurs. Et cela conduit à une sorte de nivellement, d'homogénéisation des hiérarchies d'importance. Alors, je me rappelle avoir eu un entretien avec, je crois que ça s'appelle un directeur des programmes, enfin celui qui décide, enfin ce qui sera mis dans le journal de 20h, etc., dans une chaîne publique. Il était dans l'évidence totale.